En 1347, la peste débarque en Europe. Elle débarque au sens propre d'ailleurs, parce que c'est par les bateaux qu'elle arrive d'Asie. En novembre 1347, elle est à Marseille et elle va dévaler sur toute l'Europe. En 1352, 1353, elle est à Moscou. Et ce mal qui répand la terreur va tuer un tiers de la population européenne, presque la moitié de la population urbaine. Ce n'est pas le premier passage de la peste. En 542, sous le règne de l'empereur Justinien, une première épidémie a déjà touché le bassin méditerranéen et l'Europe. Elle passe, ressurgit çà et là jusqu'au 8e siècle, puis s'évanouit. Commence alors un long silence épidémique. Quand la peste revient, en 1347, c'est une force inconnue qui, en 5 ans, jusqu'en 1352, fait entre 25 et 45 millions de morts en Europe. On l'appelle pestilence ou grande mortalité. On parlera plus tard de mort noire, puis de peste noire. C'est la plus terrible catastrophe que le Moyen-Âge ait connue. Je vais peut-être vous étonner, mais c'est un événement massif qu'on connaît très bien, mais qu'on déduit davantage qu'on ne le connaît. C'est-à-dire que ce qui documente la peste noire en Europe, c'est le silence qu'il produit dans les archives. De cette épidémie, nous n'avons qu'une connaissance par indice. Toute une série de traces signale le passage de la peste, mais sans la dire clairement. À Orvieto, en juillet 1348, le conseil de la commune s'inquiète de la montée du prix des cierges. À Sienne, le gouvernement passe de 9 à 4 membres et le chantier de la cathédrale s'arrête brutalement. À Toulouse, le prix du parchemin augmente. Les charges de notaires qui établissent les testaments se multiplient. À Givry, un village bourguignon de 2000 habitants, le curé notait dans un petit carnet les dépenses pour les enterrements. Elles montent en flèche entre juin et novembre 1348. L'historien se trouve face à la peste comme devant l'histoire de manière générale. Égaré dans une masse de documents, il traque les empreintes laissées par des événements pour reconstituer les faits. Et ces empreintes sont parfois très ténues, car la peste se révèle surtout par des manques et des vides laissés dans les archives. Par exemple, ici, dans les archives départementales du Vaucluse, nous trouvons ce registre d'un notaire d'apte. Les actes se succèdent régulièrement jusqu'à ce jour de 1348. Puis, après un court espace, l'écriture reprend, avec une autre encre, probablement d'une autre main. Mais la date indique que l'acte est de 1350. Voilà, c'est tout. Notre indice est ce vide, ce blanc, cette lacune de 2 ans. Le document ne dit rien de la peste, mais comme nous savons qu'elle est passée par là, nous devinons ici la trace de son sillage. Le registre nous dit aussi autre chose. Peut-être de plus surprenant, c'est qu'après ce manque, la vie a repris comme si rien n'avait eu lieu. En tant qu'historien, ce qui m'étonne le plus, ce qui est pour moi l'énigme, c'est pourquoi ça a si peu changé. Pourquoi, d'une certaine manière, la peste, cette catastrophe extraordinaire, change si peu de choses dans les structures sociales, dans l'imaginaire, dans la manière de penser, d'agir, d'obéir et de croire. Car il est aujourd'hui difficile de comprendre comment la société a pu résister à un tel chaos. Les rares témoignages contemporains de la Grande Peste décrivent des scènes d'apocalypse. Le plus beau et le plus terrifiant d'entre eux est sans doute le Décaméron, écrit par Boccace en 1349. Il advint plus d'une fois qu'un même cercueil contenait soit la femme et le mari, soit deux ou trois frères, soit le père et l'enfant, ou tel et tel parent. Et là où les prêtres ne croyaient avoir qu'un mort à ensevelir, ils en trouvaient six ou huit, et parfois davantage. Mais des images aussi frappantes que celles-là, elles sont assez rares dans le Décaméron. Parce que le Décaméron de Boccace ne décrit pas la peste, il écrit la manière d'y échapper. Concrètement, ce sont quelques jeunes gens bien nés de Florence qui fuient la peste, qui vont dans une de leurs villas pour se raconter des histoires. Les fouilles archéologiques menées aujourd'hui ne confirment pas l'impression que donne Boccace d'un sauve-qui-peut funéraire. Elles révèlent au contraire une grande diversité de sépultures avec un, voire deux défunts par tombe, rarement plus. L'Église, semble-t-il, a essayé de maintenir ses rituels d'inhumation le plus longtemps possible. Dès lors qu'une catastrophe de cette ampleur advient, on va en chercher les causes au ciel. Donc la première recherche, elle est évidemment religieuse. On est dans une pensée providentielle. Dieu ne peut pas ne pas voir le mal qu'il fait aux hommes. Donc si il leur inflige une aussi abominable catastrophe, c'est donc qu'il a quelque chose de terrible à leur reprocher. Nous savons d'ailleurs par plusieurs textes que la première réaction des sociétés médiévales face à l'épidémie est d'organiser des processions pour éloigner les démons et expier les péchés. Évidemment, ces processions n'éloignent pas la peste. Et on comprend même assez vite qu'elles favorisent au contraire la contagion. D'autres explications sont alors recherchées, mais cette fois parmi les hommes. On accuse les nobles, les lépreux, les juifs. En un mot, on cherche un bouc émissaire. Il y a une rumeur, c'est que les juifs ne meurent pas de la peste. C'est évidemment inexact, mais on commence à le dire. Et on commence à le dire pour amener à l'idée que si les juifs ne meurent pas de la peste, c'est qu'ils l'ont organisée. Et comment l'ont-ils organisée? Eh bien, en empoisonnant alors les puits, la nourriture, etc. Donc, immédiatement, en tout cas, dans beaucoup d'endroits, on accuse les Juifs d'être responsables de l'épidémie. Ça a des conséquences très concrètes, qui sont les pogroms. À Bâle, à Fribourg, à Erfurt, de nombreux documents prouvent que les communautés juives sont victimes de massacres. Les pogroms accompagnent le trajet de la peste et parfois même la précèdent de quelques semaines, déclenchées par la simple rumeur, comme à Strasbourg, où la moitié de la communauté juive est anéantie le 14 février 1349, avant même que l'épidémie ne touche la ville. Certains vont tout de même essayer de comprendre les mécanismes du phénomène d'un point de vue scientifique, dans les mondes chrétiens et musulmans. C'est le cas des médecins comme Guy de Chauliac à Avignon ou Ibn Ratima en Andalousie. L'astrologie est considérée comme une science. Les médecins vont donc d'abord étudier la conjonction des astres. Mais surtout, ils vont chercher à observer les symptômes pulmonaires et buboniques dans un étrange mélange de rationalité et de croyances religieuses. C'est-à-dire que les médecins du XIVe siècle ne vont pas se contenter de regarder les étoiles. Ils vont observer les phénomènes. Ils vont tenter de comprendre comment le mal se propage. Ils ont deux modèles pour cela. Le premier est aériste. Le mal se propage par l'air qu'on respire. Le deuxième est plus proprement contagieux. Le mal se propage par le contact. Et d'une certaine manière, ils ne sont pas si loin de la réalité, qu'ils n'ont aucun moyen scientifique de percer, mais que empiriquement, ils approchent dès lors qu'ils comprennent qu'une des façons de lutter contre la peste, c'est quand même d'empêcher la circulation des marchandises et des hommes. Après avoir dévasté l'Europe en 5 ans, La peste revient régulièrement, presque chaque année, pendant plus de 3 siècles, de manière endémique. On vit alors au rythme de ses résurgences, notamment au XVe siècle, où elle se montre particulièrement meurtrière. La mort noire est devenue un phénomène de longue durée. Elle s'est installée de manière permanente dans le paysage et dans les mentalités. Elle marque de son empreinte la pierre des tombeaux. Vous voyez cette sculpture funéraire que l'on appelle un transi, saisi par la mort dans sa crudité la plus pathétique. Sculpté en 1403, ce corps décharné en état de décomposition, voire de putréfaction, est celui de Jean de Lagrange, l'un des cardinaux d'Avignon. Il figure le défunt dans sa réalité bouleversante de cadavre et non dans la béatitude du gisant qui ouvre les yeux sur la promesse de son immortalité. Cette représentation de la mort, aveugle et terrifiante, se retrouve dans un nouveau genre d'image, les danses macabres. Ce que représente la danse macabre, c'est simplement l'égalité de tous devant la mort. Voilà, c'est juste ça. Mais c'est tout ça. Ce qui est terrible et effrayant pour le Moyen-Âge, parce que le Moyen-Âge avait face à la mort une inégalité sociale qui est dont on n'a plus idée. C'est-à-dire il y a un écart de l'espérance de vie entre un paysan et un aristocrate qui est énorme. Or là, évidemment, c'est la faucheuse. Le roi, l'abbé, le paysan, la belle jeune femme, tous sont emportés. Ces rondes infernales où se mêlent les nobles et les manants, les puissants et les humbles, s'égrènent tout au long des 15e, 16e et 17e siècles et accompagnent la peste sur toute la durée de sa présence en Europe. À ces dessins de squelettes fait écho une autre image, celle du médecin de peste, qui deviendra familière à partir du 17e siècle. Hermétique et entièrement huilé, le costume prévient de tout contact et son masque au bec creux, rempli d'un mélange de camphre, de thym, de clous de girofle, de milice et de pétales de rose, est censé filtrer l'air de ces miasmes invisibles. Mais le mécanisme réel de la contagion restera un mystère pendant plus de 500 ans. Et quand la peste quitte l'Europe par une dernière épidémie à Marseille en 1722, on ne connaît toujours pas sa cause véritable. Il faut attendre 1894 et la troisième grande pandémie en Asie, qui fait 12 millions de morts, pour que l'énigme commence à se résoudre. À Hong Kong, un médecin, Alexandre Yersin, poursuivant les travaux de Louis Pasteur, découvre finalement le bacille de la peste, qui prendra le nom de son découvreur, Yersinia pestis. Quelques années plus tard, un autre médecin, Paul-Louis Simon, établit que le microbe est transporté par une puce, et plus précisément, par la puce du rat. Mais comme aucun texte ne témoigne de la présence du rongeur lors du premier passage de la peste en Europe sous l'empereur Justinien, l'hypothèse de la puce du rat est écartée pendant plusieurs décennies. Ce n'est qu'un siècle plus tard, avec le travail de l'archéozoologie, c'est-à-dire l'étude des restes osseux des animaux, représenté en France par Frédéric Audouin Rouzeau, que sont enfin réunis tous les éléments du puzzle.
J'ai rassemblé petit à petit les découvertes de restes de rats dans des sites archéologiques avant le XIe siècle, que j'ai superposé à l'expansion, qui n'avait pas été dessinée par moi, de l'expansion maximale de la pandémie justinienne, de la première.